Bonjour, bienvenue pour cette première rencontre de la journée qui en fait est une rencontre entre Marie Cellier et Anne-Lise Hurti. On va parler de littérature de jeunesse et peut-être d'autres choses, mais en particulier évidemment de littérature de jeunesse. Alors cette rencontre en fait a lieu dans le cadre du lancement du prix littéraire des adolescents des Alpes de Haute-Provence. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, mais quelqu'un de l'association ou et des médiathèques qui organisent ce prix vont venir vous en dire plus. Il s'agit en fait de choisir parmi une dizaine d'ouvrages. Vous allez être appelé à voter en fait pour votre coup de cœur. Et la remise du prix aura lieu lors de la fête du livre jeunesse en mai prochain. Ça veut dire que vous avez quand même pas mal de temps pour lire tous les livres. Alors, je dis d'un mot les livres qui sont sélectionnés. L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, qui est parue chez Gallimard Jeunesse et qui a d'ailleurs obtenu le prix Vendredi, la première édition du prix Vendredi. Un prix qui justement concerne la littérature pour les adolescents, qui a été lancé l'année dernière par le syndicat national de l'édition. Sirius de Stéphane Servan, qui est paru au Rouergue. Envole-moi donc de Anne-Lise Heurtier qui est ici, paru chez Casterman et dont on va parler. D'un trait de fusain de Cathy Itac qui est paru chez Talent Haut. Sauveur et fils de Mario de Muraille à l'école des loisirs. Alors là, il y a plusieurs tomes, c'est une saga et c'est le tome 1 qui est en compétition. La tête sous l'eau d'Olivier Adam chez Robert Laffont qui vient de paraître. Et d'ailleurs, Olivier Adam est sur la place de l'Hôtel de Ville en ce moment, en parallèle de notre rencontre pour parler de son livre. La peau de Montembourg de Marie Cellier qui est parue chez Thierry Magnier. Donc Marie est là, on va en parler avec elle. Et puis Rester debout de Fabrice Collin qui est paru chez Albin Michel. Voilà, c'est en fait, j'ai lu tous ces livres, je les ai même tous chroniqués dans Télérama, donc je trouve que le choix en fait qui a été fait pour ce prix littéraire est un excellent choix. Donc je vais vous laisser la parole, madame, quelques instants pour dire de quoi il s'agit.
Bien bonjour. Donc le prix littéraire des adolescents du 04, c'est un prix littéraire qui a été créé il y a 20 ans. C'est un prix littéraire qui concerne les adolescents, comme son nom l'indique, notamment la liaison collège-lycée. Donc des collégiens et des lycéens sont à la fois lecteurs et jury pendant une année scolaire. L'avantage de ce prix, c'est que c'est un vrai partenariat entre professeurs de lettres, professeurs documentalistes, mais aussi avec des partenaires autour de la lecture. Donc nous avons Éclat de lire qui nous accompagne pendant toute l'année. Et puis nous avons, depuis le début des correspondances, la chance d'avoir ces propositions de rencontres avec des auteurs pendant les correspondances. Donc deux rencontres, une ici, une sur la place de l'Hôtel de Ville. Et ces rencontres sont le lancement de ce prix pour cette année. Les élèves, en général, ne connaissent pas encore les ouvrages, mais découvrent les auteurs. Et c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, qui est assez rare, de rencontrer les auteurs avant d'avoir lu les livres. Mais ça fait une émulation de lecture assez importante. Et les livres, après, circulent à une vitesse vraiment grand V entre les élèves. Donc je vous souhaite un bon prix littéraire pour cette année. Il y a de nombreux collèges et lycées qui sont engagés dans le département. Et je vous souhaite surtout de bonnes lectures. Merci.
Merci, madame. Oui, bien sûr. Donc on va pouvoir commencer. Alors je voulais préciser que nous avons la chance d'avoir une traduction simultanée en langue des signes par Aude et par Cécile que je remercie parce que c'est pas un travail facile, surtout comme ça un débat, on sait pas ce qui peut surgir dans un débat, donc c'est difficile à préparer à l'avance. Alors je vous présente très rapidement les deux auteurs qui sont ici, donc Marie Cellier qui publie donc La peau de Montembourg chez Thierry Magnier. Alors, Marie Cellier, là, on va passer très, très vite parce que, pour une fois, parce que très souvent, on vous voit souvent et à la radio et à la télévision et dans les journaux, etc., parce que vous avez d'éminentes responsabilités pour défendre, en fait, les auteurs. Depuis longtemps, vous avez été présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et vous êtes, depuis 2014, présidente de la Société des gens de lettres. Voilà, et Dieu sait s'il y a du travail en ce moment, sur les droits d'auteur, par exemple. Vous avez eu une belle victoire, là, tout récemment, au niveau de l'Europe. Mais là, on ne va pas du tout parler de cet aspect-là de votre vie, mais plutôt on va parler de votre vie d'écrivain. Vous avez publié de très nombreux ouvrages pour la jeunesse, et notamment des livres sur l'art. Et vous avez créé une collection qui fait référence aujourd'hui, qui s'appelle « L'enfance de l'art », avec de nombreux titres. Et puis, vous écrivez des romans pour les adolescents et les jeunes adultes. Et donc, en particulier, La peau de mon tambour, dont on va parler aujourd'hui. Et à côté de vous, Anne-Lise Heurtier, voilà, qui publie ou qui a publié l'année dernière « Envole-moi » chez Casterman, dont on va parler aujourd'hui. Anne-Lise Heurtier a publié son premier texte pour la jeunesse en 2008. Ça s'appelait « Sidonie Quenouille ». C'était aux éditions du Rouergue. Depuis, il y en a eu beaucoup, je ne sais pas combien, peut-être 25 ? 26, voilà. Le dernier vient de paraître chez Casterman, La fille d'avril. C'est un beau livre qui parle qui raconte la trajectoire d'une femme qui est adolescente dans les années 60, en fait, juste avant les événements, comme on dit, de mai 68. Une jeune femme qui n'est pas du tout politisée, pas du tout au courant des mouvements féministes et tout, mais qui va constater en fait dans sa vie à quel point les droits des femmes ne sont pas ceux des hommes et qui va en fait se révolter, et notamment parce qu'elle aime courir, parce qu'elle veut courir, et qu'à l'époque, tout ça paraît aujourd'hui très étonnant, mais à l'époque, la course, on considérait que ce n'était pas pour les femmes, et il y avait des courses qui étaient le marathon, par exemple, qui étaient interdites aux femmes. Et elle va se révolter. Et donc, elle raconte aujourd'hui à sa petite fille la vie qu'elle a eue, la trajectoire qu'elle a eue dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. En fait, elle est devenue prof de gym, donc elle a réussi à être ce qu'elle voulait être, malgré les difficultés et malgré la ségrégation par rapport aux femmes, et notamment dans les années... C'est un livre qui est très intéressant à lire parce qu'on n'imagine pas, je pense, aujourd'hui, si vous avez 15 ans, quelle était la situation des filles qui avaient 15 ans dans les années 60. Voilà, parce que c'est seulement en 1965 que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît moyenâgeux, qu'on a du mal, et c'est pas si vieux. Alors, on va parler en fait du roman, on va pas parler de celui-là, on va parler du roman précédent, donc Envole-moi, qui était paru l'année dernière et qui a donc été sélectionné pour votre prix. Alors, on va essayer pour commencer, puisque j'imagine qu'une grande partie d'entre vous n'ont pas lu encore ces deux romans, de les présenter très rapidement. On rentrera dans le détail après. Alors, je commence par vous, Marie. En fait, La peau de mon tambour, pour faire très court... Après, on va rentrer dans les détails. C'est la trajectoire de Zoé, en fait, qui est une adolescente assez fragile. En fait, ça se passe entre deux étés, un premier été, puis l'été de l'année suivante. Et elle va traverser une zone de turbulence très forte. En fait, c'est le moment où elle sort de l'enfance et le moment où elle n'est pas encore tout à fait adulte. Et elle a une mère qui est... qui elle-même a de grandes fragilités, qui est une femme qui a des troubles psychologiques importants, est extrêmement agressive vis-à-vis de sa fille. Donc tout l'enjeu du roman, c'est comment réussir à devenir soi-même dans un environnement aussi difficile. C'est toujours difficile à cet âge-là, mais là, dans votre roman, c'est sûr qu'elle part avec un sac à dos peut-être plus chargé que beaucoup. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter Zoé, nous dire comment vous voyez Zoé et nous dire... parce que ce qui est très intéressant, c'est que tout au long du roman, Zoé, elle change. Elle a l'impression qu'autour d'elle, tout change et elle ne se rend compte qu'au bout d'un moment que c'est son regard à elle qui change. Donc, ce n'est pas tant l'environnement, les autres, sa grand-mère, son cousin qui change que elle qui a changé.
Zoé, c'est une adolescente... qui est à la fois forte et fragile, qui vit avec une mère nocive, parce que malheureusement, ça arrive quelquefois. On a certains jeunes ont ce manque de bol de vivre dans un environnement qui n'est pas propice à grandir finalement. Et elle se réfugie beaucoup chez sa grand-mère. En fait, heureusement, il y a un pôle important, c'est cette grand-mère. Et ce qui va se passer dans le roman, en fait, d'un été à l'autre, c'est que d'un côté, il y a un double effritement. Il y a l'effritement de la cellule familiale, avec cette mère nocive, ce père qui a posé les armes, qui de toute façon... est complètement débordé dans cette fratrie de quatre enfants, et l'effritement de l'îlot Bonnie, c'est sa grand-mère, qui avait toujours constitué un refuge vraiment, et soudain c'est comme si les yeux de Zoé se dessilaient et qu'elle voyait sa grand-mère comme une vieille dame, qui aime trop manger, qui ne pense qu'à ça, qui finalement est très vieille. Et Zoé se retrouve toute nue au milieu de ça. Et la seule solution, quand on est au milieu du guet, seul, c'est de partir, c'est d'aller voir ailleurs. Et je pense que c'est souvent les rencontres qui permettent de se reconstruire ou de se fortifier. Et elle va aller dans un autre environnement pour puiser des forces pour repartir. Et donc tout ça dans presque une unité de temps, d'un été à l'autre.
On peut peut-être dire un mot de sa mère, parce que moi, le personnage de la mère m'a beaucoup frappé. Elle est d'une violence inouïe par rapport à sa fille. Et il y a des scènes dans le livre, mais on y reviendra tout à l'heure, mais des scènes qui, moi, m'ont donné des frissons. Par exemple, quand la mère chope une lettre que Zoé a reçue de sa grand-mère et qui l'ouvre à sa place et qui la lit devant elle, c'est incroyablement violent, cette scène. Et en même temps, cette femme, moi, j'ai jamais réussi à... en fait, on a aussi de l'empathie pour elle. C'est-à-dire qu'on sent telle souffrance. Bon, évidemment, on est plutôt du côté de Zoé, mais cette femme-là, moi, elle m'a beaucoup touchée.
Oui, c'est une femme qui, visiblement, a connu... Alors, ça ne sera pas dit dans le roman. Elle a connu quelque chose. Il y a des failles. Mais Zoé ne sait pas du tout. Elle a appris que sa mère avait été amoureuse d'un autre homme avant de rencontrer son père. Et puis ensuite, il y avait tous ces enfants qui étaient venus là par salve, quatre enfants en quatre ans, et que c'était trop. Ensuite, elle fait une fixation sur cet enfant, sur Zoé. Et effectivement, elle est d'une violence, en particulier d'une violence symbolique et d'une violence verbale qui est terrifiante. Il n'y a pas de limite. Du moment, comme elle est sa mère, elle est la mère de Zoé, tout lui est permis. Comme si Zoé était toujours, d'une certaine façon, accrochée à elle. C'est une relation quand même très paradoxale, parce que à la fois elle est nocive, elle la rejette, et à la fois il y a un lien de maltraitance, mais c'est souvent comme ça, les enfants maltraités, qui les lie presque comme un cordon au musical.
Ce qui donne une ambiguïté extrêmement intéressante dans le roman. Alors, on va y revenir. Là, pour l'instant, on présente très vite. On va rentrer dans les détails après. Donc, je voudrais qu'on essaye de présenter pareil, un peu trop rapidement, mais le roman d'Anne-Lise Heurtier, Envole-moi, qui est paru chez Casterman. Alors, on pourrait dire aussi que c'est la trajectoire d'un personnage, la trajectoire d'un garçon d'une quinzaine d'années qui s'appelle Swan. Alors, Swan, c'est un personnage plutôt bien dans sa peau. Il est très bégé, il plaît aux filles, il est dans une famille attentive et ouverte. Donc, a priori, tout va bien pour lui. Et puis, il va rencontrer Johanna. Et il va avoir un véritable coup de foudre pour Johanna. Mais Johanna, en fait, elle est dans un fauteuil, elle a eu un accident et elle est handicapée. Alors c'est une magnifique histoire d'amour, Envole-moi, mais c'est aussi un livre également difficile parce qu'on est beaucoup, en suivant la trajectoire de Swann, sur ses peurs, sur ses questions, sur la peur des regards des autres, sur la peur toujours de blesser cette personne dont il est tellement amoureux parce que dans sa situation, Johanna, elle est forcément fragile, à fleur de peau sur pas mal de sujets. Alors, j'aimerais bien là aussi que vous nous présentiez Swann et Johanna. Comment vous les voyez-vous ?
En fait, je crois que la caractéristique principale de Swann, c'est que c'était quelqu'un qui pensait avoir quelques certitudes dans sa vie, bien qu'il n'ait que 15 ans, parce que effectivement, il n'avait jamais vraiment eu de problème ou que ce soit. C'est le genre de garçon populaire, mais qui s'en fiche un petit peu d'être populaire. Enfin, vraiment, tout roule bien pour lui. Et finalement, quand il rencontre cette fille... c'est la première fois que ses certitudes sont ébranlées et qu'il se met à se poser des questions en fait, sur plein de choses, le genre de questions qu'il ne se serait jamais posé auparavant. Et en fait, quand il la rencontre, il ne voit pas qu'elle est en fauteuil parce qu'ils sont dans une brocante. Et elle est assise derrière son stand et il y a un tas de choses, vous savez, dans les brocantes, un tas de choses amoncelées. Et il voit que son visage. Et c'est après seulement qu'il découvre qu'elle est en fauteuil. Et il y a tout ce questionnement aussi au départ... où il se demande, mais est-ce que si j'avais vu tout de suite qu'elle était en fauteuil, est-ce que j'aurais pu ressentir ça ? Et puis, il est un petit peu... son attitude est très contradictoire au début, hein, parce qu'il y a deux personnes qui s'affrontent à l'intérieur de lui. D'un côté, il y a ce coup de foudre tellement fort qu'il a ressenti pour elle... Et de l'autre côté, il se dit ah non, je peux pas sortir avec une fille en fauteuil, c'est pas possible. Non, faut que je l'oublie. Mais voilà, il y a des choses qu'on n'oublie pas, il y a des empreintes, il y a des impressions qu'on n'oublie pas. Et la raison, elle a rien à voir là-dedans. Donc c'est voilà, il a plein de questionnements au départ. Bon, le livre n'est pas seulement là-dessus. Hein. Et puis Johanna, quant à elle, son personnage était un peu plus difficile à composer pour moi parce que je pense que quand on est auteur, la principale qualité qu'on doit avoir, c'est d'essayer de se mettre dans la botte, dans les bottes des gens dont on parle. Mais c'est vrai que se mettre à la place de quelqu'un en fauteuil, c'est pas évident. Et j'avais très très peur, j'avais terriblement peur de pas être juste. Ça, c'était ma grande inquiétude. Donc c'était un petit peu plus difficile pour moi de composer ce personnage. C'est la raison pour laquelle le narrateur, c'est le jeune garçon. Parce que là, pour moi, c'était plus simple. Je me disais quelles seraient mes interrogations à moi si j'étais avec quelqu'un en fauteuil, en fait. Mais voilà, et donc Johanna, elle est torturée. C'est à la fois quelqu'un qui est très. Qui aime la vie, qui est très. Voilà, elle croque la vie, mais voilà, il va y avoir un fait dans le livre qui l'a conduit à elle aussi remettre en cause, finalement, sa vision des choses et sa manière de s'envisager dans un monde. De normalité, en fait.
C'est ça. Alors, vous avez parlé d'être juste, vous avez parlé en fait, du point de vue. Alors, j'aimerais qu'on commence par ça, parce que ça, c'est une question très importante en littérature, c'est-à-dire le choix de l'auteur, de quel point de vue je me place. Et là, en l'occurrence, c'est très intéressant, parce qu'on a deux romans où le choix des auteurs a été très différent. C'est pas du tout le même point de vue, c'est même pas la même... personne, la première personne du singulier dans un cas, la deuxième personne du singulier dans l'autre cas. Donc essayons de parler du point de vue. Alors continuons avec vous peut-être, Anne-Lise. Vous avez fait le choix comme narrateur du garçon, vous avez commencé à dire pourquoi. Donc il dit je, tout le roman est vu à travers ses yeux, c'est lui qu'on suit, il est omniprésent et c'est sa voix que vous faites entendre. Alors, peut-être vous pourriez aller un peu plus loin de savoir pourquoi vous avez choisi le garçon et vous avez commencé à répondre, mais surtout, comment être juste, c'est-à-dire comment composer un jeu, vous avez dit se mettre dans les bottes, se mettre dans la peau d'un ado de 15 ans, parce qu'il faut effectivement que ça sonne juste. Comment vous avez travaillé ? Et comment vous avez travaillé aussi, pardon, je suis long, mais comme ça vous permet après de répondre à l'ensemble, sur cette question du point de vue. Vous avez adopté un ton aussi. Vous lui avez donné une voix et un ton. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a beaucoup d'humour, C'est un garçon qui est capable d'autodérision, c'est-à-dire de regard sur lui-même, assez d'ailleurs fort pour son âge. C'est pas si facile quand on est ado. Donc voilà, cette question du point de vue du choix du garçon et de la façon dont vous vous êtes mis dans la peau de Swan.
Alors au niveau de la narration à la première personne, en fait, je fais très souvent ça, pratiquement dans tous mes romans pour ados, je parle à la première personne. Parce que je sais pas, ça me donne l'impression qu'il est plus facile de m'identifier au personnage et que mon récit est plus vivant. Mais après, c'est pas quelque chose que je comment dire, c'est pas un choix raisonné, ça se fait comme ça en fait. Très souvent, on me demande pourquoi tu as écrit ça, pourquoi tu as choisi ce type de narration quand je fais une double narration par exemple. Et en fait, je peux pas dire non, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, je me suis pas dit je vais faire ça pour ça, pour ça. Ça vient un petit peu naturellement en fait, ça se fait comme ça. Après, parfois, a posteriori, je peux expliquer les mécanismes, à mon avis, inconscients qui sous-tendent ces choix. Mais au départ, ça se fait de manière très spontanée en fait, pas vraiment réfléchi. Par contre, pour le choix du personnage masculin, là, finalement, pour moi, j'avais pas le choix. Au départ, le but était d'écrire sur une jeune fille en fauteuil qui a envie de danser, parce que c'était une rencontre que j'avais faite avec une jeune fille par le biais d'Internet. J'avais lu un article sur un site où elle racontait qu'elle aurait adoré danser, mais que voilà, quand on est en fauteuil, c'est compliqué. Et son billet sur ce blog m'avait tellement touchée, m'avait tellement interpellée, puis j'avais adoré son style et son ton, c'était très drôle en fait, que je me suis mise à lui écrire à cette fille, et on a échangé quelques mails, et puis au bout d'un moment je lui ai dit moi ton billet me donne envie d'écrire un roman, alors ça sera pas ton histoire, hein, mais voilà, j'ai envie d'écrire un roman là-dessus, ça me donne envie. Et puis après quelques jours à penser à cette histoire, je me suis dit qu'il y avait un écueil principal, c'est que je ne me sentais pas du tout de me mettre dans sa peau à elle, dans sa peau de la fille handicapée, parce que ça me faisait trop peur. Ça me faisait trop peur de ne pas être juste, et ça, je ne voulais pas. Donc, finalement, il était évident et beaucoup plus simple pour moi de me mettre dans la peau du jeune garçon qui est amoureux d'elle, parce que là, j'avais finalement simplement à retranscrire mes interrogations à moi en tant que valide, donc c'était beaucoup plus facile, voilà. Bon, après, il faut se mettre dans la peau d'un garçon.
tu le fais très bien.
Oui,
je dois dire.
Oui, mais je l'ai trouvé très juste.
À aucun moment on se...
C'est vrai ?
Oh non, on a le moindre doute. Tu es garçon, c'est évident.
Parce que j'ai plein d'amis qui ont des garçons ados et qui m'ont dit moi j'aimerais bien que mon fils il soit comme ça, mais il est pas du tout comme ça.
Mais il est aussi dans un milieu. Il a une relation avec son père qui est pleine de connivence.
Oui,
et de, bon, ils se ressemblent beaucoup. Hein, tous ces jeux de mots, justement cet humour. Bon, donc non, ça c'est très réussi, je trouve.
Merci.
Oui, et puis j'aime bien la langue, parce que vous avez su trouver une langue très contemporaine, mais pas caricaturale. Parce que des fois, quand des adultes font parler des ados et qu'ils essayent de retrouver la langue des ados, ils en font trop et on n'y croit plus. Ouais. Avec « tu fais trop ta meuf ». Ouais.
Typiquement, ça sonne faux, je trouve.
Voilà. Et donc ça, et vous avez su, c'est un langage très contemporain, avec effectivement les mots de l'époque, mais c'est vous n'êtes jamais dans la surcharge qui fait qu'à un moment donné, on n'y croit plus du tout. C'est jamais surjoué. Alors vous, Marie, justement, sur cette question du point de vue, c'est intéressant là qu'on ait ces deux livres, parce qu'on a deux cas de figure complètement différents. Vous n'avez pas utilisé la première personne du singulier. Vous n'avez pas non plus utilisé la troisième, c'est-à-dire le point de vue du narrateur qui surplombe et qui, en fait, il fait ci, elle fait ça, etc. Vous avez choisi, c'est plus rare, la deuxième personne du singulier. Donc c'est tu. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas Zoé qui parle. C'est un point de vue plutôt même adulte, en fait, qui regarde Zoé. Mais en fait, c'est Zoé qu'on entend à travers ce « tu ». Et le « tu », je crois, est intéressant parce qu'il colle. « Tu », ça met extrêmement présent la personne qui est à l'action ou à la réflexion dans le livre. C'est vraiment la longue focale, comme on dit en photographie, le téléobjectif. On va vraiment chercher au plus près. Et puis de temps en temps, quand vous revenez au il ou elle, parce qu'il y a quand même des il ou elle, là, on recule, on joue. Donc vous jouez sur la courte et la longue focale. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez, est-ce que c'est venu tout de suite cette idée d'utiliser la seconde personne du singulier ?
Non, c'est pas venu tout de suite. En fait, ça a été une construction. L'idée, enfin, c'est une adresse. Le narrateur parle à cette Zoé, s'adresse à cette Zoé dont on peut imaginer que c'est elle petite, adolescente, que en fait ça peut être la même personne. En fait, je ne sais pas du tout ce que peut ressentir un lecteur, parce que moi, ça me semble évident que c'est la Zoé adulte qui s'adresse à la Zoé adolescente qui est dans cette grande zone de turbulence. Et si j'ai choisi cette forme, c'est que je voulais absolument une mise à distance. Bon, vous dites que ça rapproche, mais ça met aussi, ça crée un petit sas d'air là entre cette narratrice adulte, voilà, qui contemple ou qui se souvient de ce qu'est cette Zoé, et ça permet. Alors probablement parce que il y a dans ce livre une dimension, enfin, de peut-être autobiographique, qui fait que j'avais besoin, voilà, de mettre cette distance pour pas être trop impliquée. Et autre caractéristique aussi, la mère n'est jamais appelée maman ou la mère, elle est appelée elle avec un E majuscule, ce qui est extrêmement violent. C'est extrêmement violent de ne pas nommer la personne. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Ça dit bien le type de relation qu'il y a à cette époque de leur vie entre cette Zoé adolescente, maltraitée symboliquement, et cette femme qui, aux yeux de cette Zoé, ne mérite même pas d'être appelée par son nom de maman.
Oui, c'est très fort. Moi, j'entendais, en fait, en lisant le roman, j'entendais la voix de Zoé. Mais c'est vrai que j'ai pensé tout de suite que c'était Zoé aujourd'hui, qui est devenue une femme adulte, et qui revient sur ce... Je crois qu'on le sent oui, en lisant.
Mais qui ne le dit jamais comme tel. Jamais, non. Bon, il y a ce point de vue, jamais il y a cette focale. Bon, la focale, elle existe, mais elle n'est pas, présentée. Oui.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne juge pas, elle ne moralise pas. Et même si on pourrait imaginer, justement, que plus tard, une adulte ait un regard aussi... un peu dans le jugement, ou un peu parce que Zoé est aussi dans l'excès de son âge. Ça, c'est très intéressant. Ce que je vous propose pour...
Parce que c'est une énigme. C'est une énigme. Zoé, elle comprend pas... D'abord, elle ne comprend pas pourquoi il y a cette maltraitance de sa mère. Je pense qu'un enfant ne peut jamais comprendre. Et elle ne comprend pas ce qui lui tombe dessus au moment de l'adolescence, cette espèce de désenchantement généralisé. Soudain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve toute seule, à poil, là, comme ça, dans un trou, hein? Donc, elle peut pas juger.
Alors, ce que je vous propose pour justement illustrer tout ce qu'on vient de dire, c'est de vous faire entendre le son, entre guillemets, de chacun des livres en mettant les deux auteurs à contribution, en leur demandant de lire un extrait de leur livre. Comme ça, vous allez voir très concrètement la traduction de ce qu'on a essayé de dire. Alors, Marie, vous pourriez commencer. Donc, c'est un passage, je crois, qui est très... représentatif, en fait, à la fois du ton du livre et du personnage de Zoé.
Tu te sens jambon, côtelette, saucisse sur pâte. Tu ne peux plus supporter cette bonne mine, ces joues rondes et ce gros pétard rebondi que Bonnie considère comme la manifestation d'une saine hérédité. Pourquoi n'es-tu pas pâle et souffreteuse comme Madeleine ? Pourquoi ne pose-t-on jamais sur ton front une main inquiète? Ne scrute-t-on pas le blanc de tes yeux? Ne te prépare-t-on pas à ta seule intention une assiettée de petites pâtes alphabet que tu pourrais chipoter du bout de la fourchette pendant des heures? Tu ne supportes plus cette santé insolente. Si par extraordinaire il t'arrive d'attraper quelque chose, ce n'est bien entendu pas une anémie, mais une bonne grosse angine bien contagieuse, ou bien une fièvre afteuse, une vraie, comme seules les vaches en attrapent, un truc épouvantable qui te donne une haleine à faire fuir. Pourquoi es-tu un ventre sur pattes, gourmande maladive, obsédée de la bouffe, et pas éthérée, pâle et sans appétit comme Madeleine ? Pourquoi es-tu la seule grosse dans cette famille, une patate dans un plat de haricots verts ? Impossible de faire un régime. Tu n'arrives pas à t'y tenir. Et puis, elle t'a à l'œil. Il suffit que tu demandes une portion réduite pour qu'elle t'en balance le double dans l'assiette. Splash ! Tiens, prends ça, ma grosse. Il faut une solution plus radicale. Ne plus manger. Ou juste le minimum pour ne pas crever de faim. Supprimer le pain, le sucre, les gâteaux, les féculents. Se limiter aux fruits et aux légumes. Simple effort de volonté. Mais d'abord, obtenir d'aller à la cantine pour échapper à son œil noir, son œil furteur. Tu fais valoir un exposé, la nécessité de travailler sur place à l'heure du déjeuner, un cours de français impromptu, des travaux pratiques d'anglais. Tu te trouves 1000 bonnes raisons, vraies ou fausses, pour justifier de ne pas revenir à la maison, jusqu'à ce que, de guerre lasse, elle cède. T'en es presque étonné. Tu l'as connue plus combative. Le reste n'est finalement pas si compliqué. Au début, l'estomac ne se laisse pas faire. Il se contracte, se spasme, se révolte, bombardant le cerveau de signaux véhéments. Faim, manger, faim, manger. Il fait un ramdam de tous les diables à t'en faire exploser la cervelle. Il joue son batou et fait son boulot. Mais au bout d'un moment, il doit bien se rendre à l'évidence. Ça ne sert à rien. Tu ne céderas pas. Il n'a dès lors d'autre choix que de capituler. Il se met en position de repli, se recroqueville sur lui-même et, enfin docile, ne réclame plus sa ration habituelle. Peu à peu, il perd l'habitude et jusqu'à l'idée de se remplir. Il se contente de dînette. Au bout d'un mois, la sensation de faim s'est estompée. Tu te nourris par procuration, préparant de formidables goûters à Tristan, Madeleine et Titus quand ils rentrent de classe. Tu te rassasies de les voir croquer dans leurs biscuits, engloutir de grosses tartines dégoulinantes de confiture, laper des bols pleins à ras-bord de chocolat chaud mousseux. Les deux petits se laissent choyer avec naturel et indifférence. Après tout, ils ne t'ont rien demandé. Tristan ricane. Tu manges pas ? Tu te trouves trop grosse ? Enfin, le jour arrive où tu te découvres maigre dans le regard affolé de Bonnie. Tu t'empresses de jeter dans les cabinets le nectar précieux, ce pot de gelée royale qu'elle a acheté à prix d'or pour te requinquer. Tu fonds. Chaque jour, tu te vois fondre un peu plus, troublée et secrètement exaltée de t'amenuiser ainsi. Pourquoi t'arrêter en si bon chemin ? Tu ne ressens plus ni manque ni faim, mais tu grelottes dans ton horrible robe de chambre moutarde qui plisse aux entournures. Tu te sens vieille avant l'âge et moche. Tu as les lèvres gercées et le nez rouge comme si tu avais bu.
Bon, vous voyez le style, la qualité du texte. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit les troubles, en fait, de cette fille. C'est là ce qu'on lui fait subir, se traduit psychomatiquement, puisqu'elle elle va à la fois être boulimique et ensuite, enfin, elle a un rapport à la nourriture extrêmement, extrêmement complexe. Après, elle va se priver de tout pour maigrir jusqu'à se mettre en danger.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'anorexie. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, dans des situations trop difficiles, le choix, c'est de partir d'une certaine façon, de quitter son corps. Hein. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là, on n'est plus que pur esprit. Hein. Et ce corps auquel on a infligé, d'autres ont infligé des souffrances, même si ce ne sont pas des souffrances physiques, hein, ça peut être comme ici, des souffrances symboliques ou verbales. Voilà, on le laisse en pâture et on va ailleurs. Hein. C'est vraiment une, oui, une, c'est très très particulier, comme si l'esprit se désolidarisait du corps. Hein. Oui.
Alors, Anne-Lise Hurti, on va lire aussi un extrait du livre pour entendre le style, le ton du livre. Alors, en fait, j'ai choisi un passage plutôt au début. C'est donc, bien entendu, Swann qui parle, le garçon. Et en fait, c'est le moment où il voit Johanna. Et donc, c'est en fait le moment où il va avoir le coup de foudre, en fait, on peut dire comme ça, pour cette fille en fauteuil.
Je n'ai pas remarqué Johanna tout de suite. Au départ, j'étais trop absorbée dans l'installation de mon stand. PSP, jeux vidéo, DVD et collection de Tom Tom et Nana bien en évidence. Une valeur sûre, repérée chez la voisine. Boîte de Playmobil savamment entassée en pyramide, biographie de Jimi Hendrix, je l'ai en double, et vieille tablature de guitare disposée en éventail devant un saladier rempli de mini sneakers. Ce n'est qu'après avoir fini de vérifier toutes mes étiquettes et pris des décisions commerciales stratégiques, du genre un livre offert pour 5 achetés, que j'ai commencé à pouvoir envisager la vie en dehors des 6 mètres carrés qui m'avaient été attribués. J'ai d'abord examiné les stands alentours, avec l'œil méfiant du commerçant qui jauge la concurrence. À ma droite, une femme en blouse fleurie vendait un tas impressionnant d'articles de puériculture. Le lit, la poussette, la chaise bébé et les valises sous les yeux allaient par paire, j'en déduisis que ses enfants aussi. À ma gauche, une fille de 14-15 ans, plus gothique qu'une cathédrale vouée à l'Antéchrist, surveillait ses Barbies en mâchant méchamment du chewing-gum. Je me suis demandé quelle gamine allait bien pouvoir s'en approcher autrement qu'en y étant poussée par un grand frère sadique ou des parents maltraitants. La gothique a brusquement tourné son air lugubre et son mâchonnement vers moi, avant de se mettre à me reluquer avec une mine sinistre et gourmande à la fois. Par réflexe, j'ai aussitôt reporté mes yeux n'importe où ailleurs, en l'occurrence en face de moi, de l'autre côté de l'allée. Et là, bam, la claque de ma vie. Et pourtant, on peut dire que je m'y connais en matière de jolie fille. En 15 ans, j'en avais embrassé un paquet. Mais aucune, ni Jenny, the bombe du collège, toutes classes confondues, ni Sarah, Vanessa et Malika, meilleurs souvenirs en A, ni Margot et Louise, stage guitare de l'été dernier, ou même l'incroyable Alizée, la fille de la voisine de mes grands-parents, 2 ans de plus que moi, mon premier flirt avec les mains et tout, et accessoirement copine officielle de Luc, mon grand frère. Aucune n'avait réussi à me troubler autant. En 3 millisecondes, elle avait réussi à faire disparaître toute trace de salive de ma bouche, à me vriller l'estomac comme on essore une serviette mouillée, à me faire palpiter le cœur jusque dans les globules. C'était comme si j'avais perdu la télécommande de mon corps et qu'un savant fou avait décidé de tester toutes les combinaisons de touches à la fois. Un type haut comme un mur s'est arrêté devant mon stand, a plongé une main velue dans le saladier de sneakers en marmottant des remerciements avant de se lancer dans un examen minutieux de mes boîtes de Playmobil. C'est la série de 83, ton bateau pirate, là ? Je me suis contentée de hausser les épaules tout en me penchant sur la droite pour m'assurer que la fille était toujours de l'autre côté, que je n'avais pas rêvé, qu'elle n'était pas une mystérieuse apparition au milieu d'un bric-à-brac d'occasion façon Madone David Grenier, icône des débarras. Elle avait une moue très singulière, légèrement boudeuse, et un air à la fois vulnérable et déterminé qui me parut complètement irrésistible, comme celui d'un petit chat décidé à obtenir du lait. En fait, elle ressemblait à Lana Del Rey. En mieux. Non, c'était plutôt Lana Del Rey qui lui ressemblait. Tandis que, sidérée et émerveillée, j'admirais l'évidence, le mur, lui, continuait son monologue. C'est la seule qui manque à ma collection, alors si tu comprends, si je la trouvais. Derrière ces mots transparents, la fille était toujours là, entre les Iron Man en plastique et le bouquet de chapeau, avec ses épaules à la rondeur nacrée, ses lèvres charnues, ses mèches de chocolat qui éparpillaient la lumière tout autour. Il y avait quelque chose en elle que j'étais incapable de décrire. J'ai pensé à cette histoire de nombre d'or dont nous avions parlé en art plastique, cette proportion précise que l'on évoque pour expliquer le mystère de la beauté. Voilà, c'est ça. Elle avait le nombre d'or posé sur son visage. Elle a placé un casque de musique sur sa tête, geste d'une banalité extrême qui, chez elle, confinait au sublime. Le casque s'était fait couronne de fleurs bleutées, le bric-à-brac dorure et cathédrale, et je m'attendais à ce que deux tigres viennent indolemment se coucher à ses pieds, exactement comme dans le clip de son sosie. Si jamais tu connais quelqu'un qui vend le bateau pirate de 83, appelle-moi, a déclaré le type en tendant une main à travers les brumes baroques de mon hallucination. D'un geste impatient, j'ai attrapé la carte de visite et l'ai fourrée dans la poche arrière de mon jean, tout en continuant à jeter des petits coups d'œil furtifs à la fille. Elle avait une façon bien à elle de vivre la musique. Sa tête restait immobile, mais je percevais très bien qu'elle était partie, transportée par les notes, les vibrations dans sa poitrine. Je me suis demandé ce qu'elle pouvait bien écouter. Peut-être un solo de Jimi Hendrix. C'était complètement surréaliste. À 15 ans, je venais de rencontrer la femme de ma vie.
Voilà, à 15 ans, je venais de rencontrer la femme de ma vie. Alors, il y a une question que j'aimerais aborder avec vous deux, parce que je crois que là, c'est un point commun entre vos deux livres. C'est la question de la frontalité. C'est-à-dire qu'en fait, vous abordez des sujets plutôt sombres, même si ça va se terminer de manière lumineuse, les deux romans. Et vous les abordez de manière frontale. Alors vous, Marie, par exemple, il y a la dérive de la mère, on en a déjà parlé. Il y a la lâcheté du père aussi, ou l'absence. Il y a la mort de la tante. À un moment, il y a une tante qui meurt d'un cancer. Il y a un personnage, Suzanne, qui va être d'ailleurs le personnage qui va permettre à Zoé de s'en sortir, mais qui est quelqu'un d'handicapé. Il y a la haine de Zoé pour sa mère, qui est d'une violence terrible aussi. Alors, le regard de Zoé est tranchant. Vous abordez toutes ces questions de manière extrêmement frontale. Pourquoi ? Est-ce que c'est lié à ce qui serait un regard adolescent qui est en général assez tranchant, ou que vous voyez comme ça ? Ou bien est-ce que c'est simplement parce que c'est cette histoire-là que vous vouliez raconter et vous n'aviez pas envie de l'édulcorer, même si vous vous adressez d'abord, parce que je pense que c'est un livre qu'on peut lire à n'importe quel âge, en fait, ce livre, hein, aussi bien adulte qu'adolescent, mais que bon, là, vous auriez pu peut-être un peu arrondir les angles parce que vous vous adressiez à un jeune public. Donc j'aimerais qu'on parle de ça, de ce choix de la frontalité qui, je le précise quand même, fait, à mon sens, toute la valeur et toute la beauté du livre.
C'est frontal parce que je pense que l'adolescence est frontale. Enfin, bon, on biaise pas. Enfin, on ressent les choses et on les restitue comme telles. Et puis, je pense que quand on ne va pas bien, on va pas éluder, on va pas trouver des emprunter des chemins de traverse. Hein. En fait. Zoé, ça veut dire la vie. C'est un prénom, ça veut dire la vie. Et Zoé, elle essaye de vivre, tout simplement. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est essentiel ce qui se passe dans la vie, dans la vie de Zoé. Hein. C'est pas périphérique. Ça justifie complètement que. Et puis, je pense que moi, je suis comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire que je pense que j'aime bien ce qui est frontal. Je déteste la langue de bois. Quand j'écris, j'ai toujours une écriture extrêmement ramassée et extrêmement concise, incisive. Et je ne me suis pas forcée à... On ne peut pas dire que j'ai voulu adopter un ton particulier. C'est un ton qui s'est... imposé comme ça. Et c'est vrai que, alors le point commun, oui, entre nos deux romans, c'est que il y a une figure de handicapé. Alors toi, c'est vraiment central, hein, puisque c'est l'aimé, bon, qu'on la suit. Et moi, c'est une figure qui intervient plutôt à la fin du livre et qui va aider Zoé à se reconstruire. Voilà, c'est une période. Bon, en exergue du livre, j'ai mis cette citation de Leonard Cohen. Il y a des failles en tout. Je ne sais plus exactement. J'ai mis en anglais quelle est la traduction. Il y a une faille en toute chose. C'est par là qu'entre la lumière. Hein. Voilà, c'est un peu ce que Oui, c'est Leonard Cohen, le chanteur, qui a fait une chanson d'ailleurs là-dessus. Et c'est exactement ce qui se passe pour Zoé. Hein, cette faille énorme, ce trou dont je parlais tout à l'heure, bon, va permettre de faire entrer la lumière. Et c'est ce qui se passe pour Suzanne, cette potière handicapée, qui, elle aussi, elle a cette faille, elle a été victime de la polio, hein, donc elle est très, très, très handicapée. Et pourtant, c'est la lumière, c'est la joie, c'est la transmission et c'est la beauté.
Oui. Alors on parle de manière elliptique, hein, pardon. Là, on parle de la fin du livre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais attention à pas trop raconter pour pas gâcher votre lecture et vous dire tout et vous dire comment ça se finit, etc. Mais c'était important quand même de faire allusion à ça. Est-ce que c'est pas aussi cette manière frontale? Est-ce que c'est pas aussi d'une certaine manière une vision de la littérature? C'est-à-dire que bien sûr, c'est un plaisir de lire. Mais la littérature, c'est pas du divertissement, ou c'est pas seulement, en tous les cas, du divertissement. La littérature, c'est là aussi pour bousculer, pour faire réfléchir, pour casser un certain nombre de choses qui se passent et qui sont intolérables.
Oui, oui, je pense que la littérature, c'est pour faire caisse de résonance. Ce livre s'appelle « La peau de Montembourg », mais... Barthes disait le langage est une peau, hein. Et donc pour faire caisse de résonance avec une histoire, il faut bien tendre une peau, et cette peau, c'est la littérature, c'est le langage, hein. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est de trouver les mots justes, les formules justes qui vont permettre. Alors, en ce qui me concerne, avec un grand souci d'économie, de dire exactement ce que je veux dire au moment. C'est une utilisation presque chirurgicale de la langue, qui peut être, oui, qui peut être assez dure. C'est pas moelleux comme un bon matelas, ma forme d'écriture. Hein. C'est plutôt des petits couteaux qui vous rentrent dans la chair. Hein. On en prend aussi plein la gueule.
Oui, c'est sûr. Alors, Anne-Lise, sur cette question aussi de la frontalité, parce que c'est un point commun aussi, c'est-à-dire que vous envisagez, alors, au fur et à mesure, votre personnage, Swann, va découvrir en fait l'ampleur de la question. Les difficultés de Johanna, vous les montrez très clairement, ces moments de désespoir, la violence du regard des autres sur son fauteuil, sur elle, sur aussi Swann en disant « mais enfin... tu vas pas sortir avec une handicapée, t'es ouf. La peur de Swann, est-ce que je pourrais sortir avec une fille en fauteuil roulant ? À un moment, il se demande, est-ce qu'elle pouvait faire l'amour normalement ? En fait, toutes ces questions. Donc, vous n'éludez en fait aucune des questions. Vous aussi, vous avez un traitement frontal du propos.
Bah, en fait, pour moi, c'est juste sincère. En fait, c'est la question d'être honnête avec. Avec le sujet et puis avec le lecteur aussi. Moi, je suis comme toi, Marie, j'ai horreur de la langue de bois ou des lunettes roses qu'on veut se mettre parfois sur ce qui nous entoure. Et voilà, et je voulais juste être sincère, en fait. Voilà, c'est comme ouais, dans les autres romans que j'ai pu écrire. Quand j'écris sur les réfugiés, que je me mets à la place des migrants qui sont dans leur... dans leur 4x4 et qu'on jette les morts par-dessus bord, voilà, c'est dur, mais c'est très dur, mais c'est la réalité, ça existe. Et voilà, faut pas se mettre des lunettes roses, faut les enlever. Et là, j'avais vraiment envie d'être sincère. C'était surtout ça, en fait, la sincérité, parce que c'est comme ça aussi qu'on est juste, je crois, en fait.
Alors, ce sont donc des romans comme ça, un peu coupants les deux, mais il faut parler de l'humour. Parce que c'est très important, parce que ce sont des romans qui sont. En fait, moi, j'ai beaucoup ri, malgré. Je ne sais pas si peut-être ça vous paraît étonnant compte tenu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'à la lecture des deux livres, j'ai beaucoup ri parce qu'il y a l'humour et parce qu'il y a la poésie aussi. Alors, Marie, là, ça passe aussi par le regard de Zoé. C'est vrai que son regard est tranchant, mais elle a beaucoup d'humour. Elle voit et elle a un regard sur la nature, par exemple sur les paysages, sur les oiseaux, sur la mer. Et par moments, elle a vraiment un regard d'une poésie fulgurante. Il y a des passages magnifiques dans le livre. Et puis, elle est drôle, et notamment, je pense à une scène très drôle où elle va à la plage avec son cousin. Alors, son cousin, on sent que les étés précédents, elle était très liée à lui. Et puis voilà, puis grandissant, il s'éloigne un peu. Lui, il est venu avec un copain qu'elle n'aime pas. Le cousin ne s'intéresse plus du tout à elle. Il n'y en a que pour le copain, Loïc. Et alors, il y a une scène, ils vont à la plage et ils se baignent à poil, en fait. Et il y a le regard de Zoé sur ces deux garçons, et notamment le copain, qui est quand même un peu l'idiot du village. C'est un passage extrêmement drôle. Ou alors, il y a aussi le moment où elle voit sa grand-mère qui est dans son jardin, parce que la grand-mère, elle cultive ses tomates et tout ça dans son jardin. Elle est penchée en avant, et donc Zoé, elle voit les fesses de la grand-mère, et elle dit, elle la compare à une idole païenne dressée vers le ciel. Donc il y a cette utilisation en permanence de l'humour qui vient bousculer, en fait, le reste du texte.
Oui, Zoé, c'est la vie. Et la vie, bon, on sait très bien que rien n'est manichéen, qu'il n'y a pas d'un côté, enfin, une vie toute noire et une vie toute rose. Et même si, bon, voilà, c'est une zone de turbulence, d'abord, elle a un regard. Hein, c'est quelqu'un qui regarde les gens, qui les voit, qui est indifférente à rien. Hein, et elle a cette espèce de, oui, ça, comme vous le dites, une empathie pour la nature. Elle se sent bien. En fait, une partie du roman qui se passe dans cette maison sur la mer, c'est sa maison d'enfance. C'est là où elle a toujours passé ses vacances. Et c'est un lieu qui la comble, qui la remplit. Hein, même si cette année-là, ça s'effrite un peu, il y a ce bien-être d'être complètement une dans cette air qui est transparent, dans ces odeurs, dans cette beauté de la nature. Et la relation avec le cousin, effectivement, est importante. Ce cousin chéri qui était son seul compagnon de jeu les années précédentes, soudain, il est avec ce copain de type albinos, un peu limite. Et cette exclusion, elle la vit pas mal, donc elle la vit mal plutôt. Donc elle joue un peu des tours à ce. Mais bon, je veux pas tout raconter. J'ai pas envie d'entrer dans le. J'ai pas envie d'entrer dans le détail de ça. Oui.
Mais c'est en tous les cas, c'est une scène extrêmement drôle et qui rend. Parce qu'on l'a bien compris, je ne veux pas raconter la fin, mais on l'a bien compris, ça va quand même aller. La lumière va passer à travers la faille et donc ça va se terminer par un. On a eu un été brûlant, difficile, carbonisant, et on est sur un été lumineux, ça se termine comme ça. Et il y a cet humour et cette poésie qui porte tout le texte et qui vient en complément du côté sombre, en fait, du
propos.
Mais
c'est une histoire très banale, hein? Tout ça, en fait, c'est vraiment, enfin, je pense, la façon de l'écrire et la langue qui fait sortir de la banalité une histoire. Hein. Je pense que c'est ça qui est important dans ce livre.
Hein. Et puis chez vous, Anne-Lise, c'est le ton, en fait, de Swann. C'est vrai que c'est malgré tout ce qu'elle traverse, il est tellement bousculé par tout ce qu'il vit, c'est tellement fort. En plus, c'est une histoire d'amour extrêmement forte entre les deux. C'est presque une histoire d'amour fou que vous racontez. Envole-moi, ils rêvent tous les deux de pouvoir voler. Je veux pas raconter, mais il y a une scène de parapente. Il y a ce rêve aussi de cette jeune fille qui veut faire de la danse, etc. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce de légèreté, en fait, tout au long du livre, qui vient aussi contrebalancer la lourdeur du propos général. Et c'est donc ce personnage, moi, que j'aimerais que vous disiez un mot par rapport à son. En fait, son énergie, il a une énergie extraordinaire et il a une capacité d'autodérision extraordinaire.
Oui, ça s'est imposé assez naturellement. Et en fait, je pense que c'est parce que je ne voulais pas d'un roman qui, dans l'ensemble, aurait pu être un peu larmoyant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est terrible, elle est handicapée, oh là là, c'est vraiment affreux. Non, je ne voulais pas du tout de ça. Et je crois que c'est pour ça que mon héros a ce ton-là et qu'il est toujours dans l'humour, dans l'autodérision, pour que ça soit au final quelque chose d'assez... qui véhicule de l'espoir, quoi, finalement, assez porteur d'espoir.
Oui, ça, tu réussis très bien, je trouve. Juste, à aucun moment, c'est l'écueil de ce genre de livre. Hein. Parce que, bon, dès qu'on parle fauteuil, handicap, les regards s'humidifient. Et là, tu as une... et tu t'en sors d'ailleurs par l'humour. Et puis, le caractère bien trempé de cette Johanna. Hein, cette Johanna qui ne se laisse pas faire, hein, qui a quelquefois des réactions brutales, hein, qui étonnent. Hein, parce qu'on attend d'une... en aucun cas, elle se pose comme victime. Hein. Et ça, non, c'est formidable.
À un moment, elle dit mais j'en ai marre qu'on me dise que je suis courageuse. Parce qu'elle, elle est handicapée depuis très très longtemps. Et elle se dit mais ça veut dire quoi? Je suis courageuse de me lever le matin. Je ne veux pas qu'on me donne une médaille parce que je pense à me brosser les dents le matin. Quoi. Voilà, elle est comme ça. Et elle n'a pas envie d'avoir un regard de pitié, d'avoir un regard larmoyant. Oh là là, ma pauvre, qu'est-ce que je ferai à votre place? Vraiment, vous êtes bien courageuse. Hein. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est terrible d'entendre ça quand on est handicapé ou quand on souffre d'une différence, quelle qu'elle soit, en fait. Et voilà, elle ne veut pas être là-dedans. Et ça, il l'a bien compris, Swan, en fait.
Alors, il est 11h30. Je ne sais pas si vous avez, si vous devez précisément partir maintenant parce que, je ne sais pas, pour revenir en classe et tout, ou bien si on peut prendre 5 minutes de plus si vous avez des questions à poser. Est-ce que vous avez des questions à poser aux auteurs? On peut prendre 5 minutes si vous voulez, si vous pouvez. Oui, je vous en prie.
Ah, l'inspiration. L'inspiration, c'est une vaste question. Alors, est-ce que c'est le machin qui vous tombe dessus, là, comme ça, hein, l'inspiration divine? Est-ce que... Alors, dans inspiration, il y a... Inspiration, hein. Et je pense que c'est plutôt ça. Hein. On écrit toujours à partir de soi, de son environnement. Hein. Là, je vous ai dit, bon, il y a une dimension autobiographique, mais pas que. Hein. C'est un roman. Et un roman, c'est 100% vrai et 100% faux. Hein. Donc, voilà, l'inspiration, on la trouve en respirant fort, en regardant autour de soi et en convoquant, en fait, tout ça pour fabriquer... Un objet littéraire, hein. c'est vraiment vrai. Je reviens à la forme parce que par exemple il y a eu tellement d'histoires d'amour depuis le début de la littérature que le sujet devrait être complètement épuisé. Et qu'est-ce qui fait que on puisse continuer, hein, à en écrire? C'est qu'à chaque fois la forme est différente. Et voilà, donc il y a à la fois ce sujet qu'on va, voilà, qu'on va puiser à droite, à gauche, et puis ce travail, parce que la littérature, c'est du travail. Hein. Je ne crois pas que l'inspiration vous tombe dessus et puis qu'ensuite, ce soit l'écriture automatique. Hein. On fait, je pense que Anne-Lise aussi, tu fais beaucoup de brouillons, tu reviens, tu relis, tu coupes, tu rajoutes. C'est ça notre métier. Parce que c'est un métier, hein, le métier d'écrivain. C'est pas quelque chose qui nous fond dessus. Hein.
Merci. Oui, mademoiselle. Question pour Anne-Lise Heurtier. Pourquoi écrire spécifiquement pour la jeunesse?
Pourquoi écrire spécifiquement pour la jeunesse?
C'est une question difficile, je ne sais pas. Je me sens bien en littérature de jeunesse. Après, voilà, la question de qu'est-ce que c'est que la littérature de jeunesse et qu'est-ce que c'est que la littérature adulte, c'est compliqué. La frontière, elle est ténue aussi. Ce qui est fort dommage, c'est que très souvent, on essaye de mettre un peu... une espèce de gradation. Moi, j'avais une tante qui me disait tout le temps, bon, alors, quand est-ce que tu vas te mettre à écrire pour les adultes? Voilà, vous savez, avec le sous-entendu, oui, parce que bon, ça suffit de jouer dans le bac à sable. Et il y a un moment, j'ai trouvé une réponse, et finalement, maintenant, elle ne me pose plus la question. Je lui dis, mais enfin, c'est comme si tu disais à un pédiatre, bon, alors, ça suffit, quand est-ce que tu vas soigner des adultes, maintenant? Et en fait, c'est pareil, c'est... Il n'y a pas de littérature plus aboutie ou plus intéressante qu'une autre. Moi, je trouve que... écrire pour les ados, c'est super intéressant parce que, bah, pour plein de choses, parce qu'on est à une période de sa vie où on se pose plein de questions, où, où tout est encore possible, où on n'est pas encore forcément plombé parfois comme quand on peut l'être à l'âge adulte. Et puis ce que je trouve très challenging, on va dire, en écrivant pour les ados, c'est que vous avez un regard très très dur et très incisif, et on sait qu'on peut pas laisser passer des choses trop tièdes. Je crois que j'ai envie de dire comme ça. Voilà.
Quelqu'un d'autre? Oui, je vous en prie. Ah, elle avait trois questions. Alors on revient à vous après.
Ah, pourquoi je me suis lancée dans l'écriture? Alors, ce qui est un petit peu terrible, c'est que je n'avais jamais identifié quand j'étais petite que ça pouvait être un métier. Pour moi, les auteurs, bah, ils étaient morts, en fait. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose que j'envisageais, alors que j'adorais lire. Depuis toute petite, j'étais une lectrice boulimique, et puis j'écrivais même, j'adorais les rédactions. Mais je n'avais jamais pensé que c'était quelque chose que je pouvais faire toute seule. Pour moi, c'était lié à l'école, en fait. Et du coup, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec la littérature. J'ai commencé à bosser dans un secteur qui n'a rien à voir avec ça. Et puis, c'est revenu. Alors, j'ai envie de dire par hasard, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard, justement. C'est revenu parce que c'était en moi. Et c'était une époque où j'habitais très loin, à Tahiti. Et quand j'envoyais des petits cadeaux à ma petite nièce qui habitait en métropole, au lieu de lui envoyer une barrette en coquillage ou un collier de nacre ou je ne sais quoi comme ça, j'inventais une histoire pour aller avec. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah mais c'est génial, mais je prends un plaisir incroyable à écrire ces histoires. Et voilà, je me suis dit, bah, mais pourquoi pas écrire des histoires, vraiment carrément, essayer de les faire publier. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Alors je reviens à vous, mademoiselle. Vous revenez en deuxième semaine, donc, avec une nouvelle question.
Pourquoi avoir choisi le prénom Swan et pourquoi avoir fait de votre personnage un guitariste?
Alors, la question des prénoms, on me la pose souvent. Comment vous choisissez les prénoms? C'est un processus, je ne sais pas comment tu fais, Marie, mais moi, c'est un processus un petit peu particulier. Alors, déjà, il faut que le prénom, bien sûr, soit cohérent avec l'époque. Quand j'ai écrit Sweet Sixteen, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis. Bon, alors bien sûr, je vais prendre des prénoms américains des années 60, et puis je vais prendre des prénoms qui correspondent aussi aux catégories socio-professionnelles, que ce soit voilà, des gens un peu aisés. Je cherche des listes comme ça sur Internet de prénoms qui correspondent aux critères. Après, je les lis. Donc parfois, il y en a 200. Et je sais qu'il y a un moment, il y en a un qui va, comme s'il clignotait, et je me dis, bah oui, c'est lui. Il s'appelle comme ça ou elle s'appelle comme ça en fonction du caractère que j'ai imaginé. Et là, pour Swan, je voulais un prénom un petit peu original. Donc voilà, j'avais pris une liste de...
Moi, je m'étais demandé si vous aviez pensé à Black Swan, le film qui, comme ça, parle de danse. Et Black Swan, c'est un très beau film sur la danse.
Et puis Swan, c'est le signe.
Pour papa, ouais, ouais.
Pour envole-toi, le signe. Bon, qui s'envole.
Mais j'avais jamais pensé, c'est fou.
Non, mais c'est assez amusant. Ouais, alors ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, en fait, dans ce qu'on fait. C'est que quelquefois, on écrit des choses dont on ne mesure pas toute la portée.
Oui, ou alors après.
Et où après coup, par exemple, souvent, une rencontre comme ça peut mettre le doigt sur quelque chose voilà, qu'on n'avait pas véritablement identifié. Maïlys de 44, on parlait, disait exactement la même chose. Je sais pas, elle a été interviewée quand elle a eu le prix de qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un prix là, dernièrement. Et elle disait, mais en fait, ce temps de rencontre, etc., me permet d'avoir un regard sur mon œuvre et de découvrir ce que j'ai écrit. Hein. C'est assez fascinant, je trouve. Et l'histoire du prénom, eh ben, c'est un peu comme quand on a un enfant. Quand on n'attend pas d'enfant, il y a des tas de prénoms qu'on adore. Et puis ensuite, quand cet enfant va naître, eh ben, il n'y en a qu'un qui lui va de prénom. Et donc, oui.
Oui, en fait, tu as l'impression que le prénom, il existe avant que toi, tu le connaisses. Et que voilà, c'est une rencontre, en fait.
Oui, oui, absolument.
Il y a évidemment la référence à Proust, quand même, Swan. Mais bon, je ne sais pas si vous y avez, pensé. Non.
Pourquoi pas?
Non. Et donc, vous revenez en troisième semaine, mademoiselle, avec une nouvelle question.
Encore. En fait, c'est aussi la deuxième partie de ma deuxième question. Je vous avais demandé pourquoi il est guitariste.
Oui, pourquoi il est guitariste. C'est compliqué ces questions. Je ne sais pas. J'ai imaginé ce personnage et je voulais, je voulais lui donner une couleur un peu particulière. Je voulais qu'il ait un monde bien à lui. Et puis la musique, je sais à quel point ça peut être important quand on est ado. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Mais encore une fois, quand je crée un personnage, j'ai pas une démarche de construction vraiment raisonnée. Je me dis pas, ah tiens, je vais faire ça pour ça, je vais faire ça pour ça. Ça se fait un petit peu naturellement et c'est assez difficile à expliquer en fait. Ça se fait comme ça.
Et là, c'est une question un peu pour les deux auteurs. Combien de temps il vous faut à peu près pour créer un livre ?
Alors moi, je commence. Moi, j'écris très très souvent sur des sujets qui demandent beaucoup de documentation parce que ce sont des sujets qui m'interpellent personnellement, pas en tant qu'auteur, mais en tant que Anne-Lise Ortier. Et du coup, à chaque fois, je m'embarque pour 6 ou 8 mois de recherche documentaire. Donc, c'est 5 heures par jour de la recherche documentaire sur des pays dans lesquels je n'ai jamais mis les pieds ou des époques que je ne connais pas, comme le livre dont on a parlé tout à l'heure. J'ai fait 6 mois de recherche documentaire. J'ai interviewé des tas de jeunes filles qui avaient 16 ans en 66. J'ai lu plein de bouquins. J'ai regardé plein de films sur ina.fr. Enfin, bref. Donc, moi, j'ai souvent, avant... 6 mois à peu près de recherche documentaire avant d'écrire. Et ensuite, la phase d'écriture, en général, j'en ai pour 2 mois, mais sachant que je ne travaille plus. Enfin, je n'ai plus de travail salarié à côté. Donc, j'ai 5 heures par jour de disponible, en fait. Voilà.
Et oui, sur le temps d'écriture, alors ça varie beaucoup en fonction des livres. Moi, je sais que ce livre m'a accompagnée assez longtemps aussi parce que bon, j'ai publié beaucoup d'autres livres dans l'intervalle et que j'y travaillais et puis je le laissais tomber, puis j'y revenais.
Plusieurs livres en même temps.
Oui, et en plus, alors je suis quand même très très prise par mes fonctions de représentation des auteurs, donc j'ai toujours l'impression de travailler dans les interstices, dans les trous, hein, quand j'ai un petit moment. Donc il m'a pris pas mal de temps à écrire. Et puis voilà, pour arriver à cette forme, oui, c'est un peu un galet poli, hein, ce livre. Hein. Il a eu le temps de rouler dans la mer, c'est le cas de le dire.
Bon, en tous les cas, vous, mademoiselle, vous pourriez faire journaliste, par exemple. Hein, vous avez l'air d'avoir des prédispositions. Alors, on a parlé de 2 livres. J'espère qu'on vous a donné envie de les lire. Bon, de toute façon, l'ensemble de la liste des livres pour le prix qui vous est proposé est vraiment de grande qualité. Là, en l'occurrence, on a parlé de 2 d'entre eux. Marie Cellier, La peau de mon tambour, qui est paru chez Thierry Magnier. Et puis d'Anne-Lise Heurtier, Envole-moi, qui est paru chez Casterman. Voilà, je vous invite à vous y mettre très vite. Ce sont de très, très beaux livres. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Je remercie les traductrices en langage des signes également. Très bonne journée à tous.
Merci, Michel.